voulais juste préciser quelque chose. Vous ne le savez pas, mais depuis le début de l'Église, on prie que les nations soient dans cette Église. Et vraiment, c'est un privilège, toutes les nations, de vous avoir parmi nous. C'est un vrai privilège. Vous êtes une réponse à nos prières.
Ce qui veut dire que vous qui n'êtes pas français, vous nous enrichissez. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je tiens d'abord à vraiment vous remercier. Vous savez, on dit souvent que quand on décide d'aller faire quelque chose pour Dieu, en fait, on a la surprise de recevoir. On va pour donner, on reçoit infiniment au-delà de ce qu'on croyait donner. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi ce week-end, en fait. Oui, c'est vrai, j'avais écrit à Sarah et au leadership de l'Église dans l'espoir de donner, mais j'ai l'impression d'avoir reçu infiniment au-delà de ce que j'espérais donner. Alors, je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Cette église est vraiment un réchauffement pour mon cœur et ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va prier parce que le Seigneur Jésus est ici et parce que c'est lui qui conduit tout. Seigneur, je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es souverain. Je te remercie parce que, effectivement, Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Seigneur, tu as déclaré chaque jour ce que tu accomplirais, Seigneur, et dans ta grande bonté, Seigneur, tu permets que nous soyons réunis ensemble ce matin. Et je te loue, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, et je te prie, Père, que alors que je le partage, Seigneur Jésus, que des cœurs soient encouragés. Je viens, Seigneur Dieu, déclarer, Seigneur, sur les cœurs découragés, Père éternel, que tu viens apporter la vie, que tu viens renouveler la joie, Seigneur. Je prie, Père, que je ne parle pas de mes propres forces, que je ne parle pas selon ma propre intelligence, mais Saint-Esprit, que tu parles au travers de moi, Seigneur, pour encourager tes enfants en ce lieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, donc voilà, je m'appelle est-ce que je dis mon âge ou pas? Je ne sais pas, c'est pertinent ou pas? Est-ce que je serais condamnée si je dis mon âge? Alors, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Je suis née au Bénin, je suis béninoise. Et je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne, en fait. Et c'est seulement à l'âge de 18 ans que je vais connaître le Seigneur Jésus. Donc en fait, ma mère est décédée quand j'avais 11 ans, et c'est vrai que ça a été le début de beaucoup de questions par rapport à l'existence de Dieu. Je me posais des questions du genre, est-ce que Dieu existe vraiment? Et s'il existe, pourquoi il y a le mal dans le monde? Pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Alors quand je suis venue au Seigneur à 18 ans, j'avais énormément de questions, et quelqu'un m'a dit, écoute, il suffit que tu lises la Bible. Et en lisant la Bible, je suis venue au Seigneur grâce au livre du Deutéronome. Alors chaque fois que je dis ça, les gens disent, mais c'est tellement peu probable. Mais justement, pour moi, ça a été le fait de comprendre que Dieu était un Dieu de justice. Ça a été quelque chose de déclencheur dans ma venue à Christ, en fait. De comprendre que Dieu est saint, que le monde est corrompu par le péché, mais que Dieu est saint néanmoins, et que justement, parce qu'il est saint, il donne son Fils Jésus pour nous emmener à lui, pour nous donner une vie éternelle, une vie nouvelle en lui. Et donc là, je viens au Seigneur à 18 ans et je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, en fait. Oui, je suis à l'université, mais en fait, la vérité, c'est que je suis à l'université parce que j'ai décidé de fuir la famille, en fait. J'ai eu une adolescence qui n'était pas évidente, dans un foyer qui n'était pas forcément simple. Et pour moi, je m'étais toujours dit, voilà, quand je vais aller à l'université, je n'aurai plus ma famille sur le dos, je vais faire ce que je veux. Mais en même temps, j'étais suicidaire, donc je me disais, de toute façon, si je péris, tant pis, parce que de toute façon, je n'aurai pas ma famille avec moi. Et donc, j'arrive au Québec dans cette situation où j'ai cet état de pensée. Et quelqu'un me dit, tu sais, Dieu, tu n'as pas créé pour rien. Tu as créé pour une raison. Il faut que tu découvres quelle est la raison pour laquelle il t'a créé. Et donc, je me mets à prier Dieu. Et puis, je sais que pour certaines personnes, ils vont dire qu'ils ont reçu leur appel par une parole prophétique ou par un rêve ou par quelque chose d'extraordinaire. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment le cas. Pour moi, c'était juste naturel. J'ai juste su que Dieu m'appelait à la mission. Je ne peux pas vraiment expliquer d'où venait cette conviction, mais c'était une conviction qui était là dans mon cœur, tout simplement. Et il est vrai aussi que dans Matthieu 28, verset... dans Matthieu 28, il nous est dit que nous devons aller vers les nations et prêcher l'évangile. Donc, bien sûr que ça a été un guide pour moi aussi, mais pour moi, ça a été quelque chose de naturel. Ça a été une croyance naturelle que voilà, que Dieu m'appelait à la mission. C'était très clair dans mon esprit. Par contre, mon papa n'était pas chrétien. Et en fait, il était très fâché du fait que j'étais devenue chrétienne. Et j'étais à l'université, je venais de commencer des études en biologie et il était hors de question que mon papa me permette d'aller à l'Institut biblique. Je voulais vraiment aller à l'Institut biblique. Je me disais, waouh, si je vais être missionnaire, ben, il faut que je comprenne la Bible, il faut que j'aille à l'Institut biblique, c'est logique, n'est-ce pas? Et je voulais vraiment aller à l'Institut biblique. Mais quand je priais, je sentais que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Je sentais que déjà mon père ne serait pas content, mais ce n'était pas juste ça, même avec mon pasteur de l'époque, il ne m'encourageait pas forcément à faire ce choix-là. Et pour vous dire la vérité, j'étais un peu fâchée, j'étais un peu frustrée contre Dieu. Et je me souviens même d'avoir dit à Dieu, « Ouais, si j'étais fille de pasteur, tu m'aurais permis d'aller à l'Institut biblique, mais comme je ne le suis pas, je me sens discriminée, ce n'est pas juste. » J'étais vraiment en colère contre Dieu parce que je ne comprenais pas que, effectivement, les voies du Seigneur sont bien au-delà des nôtres. Des fois, nous, on voit ce qu'on a dans le cœur, on voit notre rêve, on pense qu'il y a un chemin A pour y aller, mais en fait, le Seigneur, il a un autre plan. Et quelquefois, le Seigneur nous emmène à faire confiance à cet autre plan, en fait. Donc, je voulais aller à l'Institut biblique et ça n'a pas marché. Et le Seigneur me disait plutôt de faire des études en génie alimentaire. Et je disais, mais c'est pas logique, je comprends pas pourquoi. Et j'ai fait ces études, mais vraiment en boudant. J'ai passé 5 ans à bouder contre le Seigneur de ce qu'il me demandait de faire des études en génie alimentaire alors que je voulais être... Pardon, je pense en France, vous dites génie agroalimentaire, enfin c'est pareil. Et j'ai passé ces 5 ans à bouder contre le Seigneur parce que je ne comprenais pas pourquoi il me faisait prendre ce chemin-là. Alors, entre-temps, j'ai mis de côté le rêve de la mission. Je dis, bon, ben, j'imagine que ce n'est pas pour moi. J'imagine que, voilà, que le Seigneur il m'appelle plutôt à travailler comme tout le monde. Vu que je ne serai pas pasteur, comment voulez-vous que je sois missionnaire? Enfin, ce n'est pas logique, quoi. Et donc, j'ai continué comme ça. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai fini par graduer de mon programme en boudant. Mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même gradué. Et donc, la première année, en fait, ça a été un peu une année de galère pour moi. Je n'arrivais pas à trouver de travail. Mais ça a été une année, en fait, quand j'y repense, maintenant, je réalise que le Seigneur me préparait, en fait. Parce que comme j'étais en galère financière, mais le Seigneur, il pourvoyait à tous mes besoins, en fait. Et je me souviens d'une fois où j'étais vraiment découragée. Je n'avais pas un sou. Je louais une chambre chez... Je louais une chambre chez une personne et dans ma chambre, il y avait comme matelas, je mangeais du riz H24 en fait, parce que je n'avais pas de sous du tout. Et j'étais vraiment totalement découragée. Je me souviens une fois, je suis allée m'asseoir près d'un arrêt de bus, c'était en hiver. Pour ceux qui connaissent l'hiver canadien, c'est assez rude. Voilà, c'est l'hiver. Et c'était l'hiver et j'étais assise à cet arrêt d'autobus. Et là, je me mets à observer des oiseaux et il y avait des oiseaux qui étaient là. Et puis, ils picoraient. Et puis, il y avait un morceau de cigarette. Et les oiseaux, ils ont, pour une raison quelconque, ils ont compris que la cigarette, c'était pas bon pour eux. Et donc, ils sont mis à picorer autre chose. Et j'étais vraiment émerveillée par ça. J'étais comme, wow, comment ils font pour savoir ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour eux? Et là, je me souviens que le Seigneur a parlé à mon cœur. Il a dit, tu vois, comme je prends soin de ces oiseaux, comment tu peux penser que je ne prendrai pas soin de toi? Et ça a été vraiment, même aujourd'hui encore, c'est une image qui dirige ma vie, en fait, parce que ça a été, le Seigneur m'a appris à comprendre que c'est lui qui prend soin de moi. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un salaire, c'est le Seigneur qui prend soin de moi. Donc, il y a eu cet épisode-là. Et puis finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver un travail. Enfin, le Seigneur m'a donné un travail. Et donc là, j'étais contente. J'étais comme, ah, enfin, je suis sortie de la galère. Enfin, je vais avoir enfin une vie stable et normale, comme tout le monde, parce qu'on est appelé à être des gens normaux. Donc, je vais être enfin normale. Et donc là, je commence ce travail. Et en fait, au Canada, on a seulement 2 semaines de vacances et pour les avoir, on doit travailler au moins une année. Donc, je commence mon travail et puis j'ai un ami, un ancien pasteur de jeunesse, enfin toujours pasteur de jeunesse, qui m'appelle et qui dit « Écoute, cette année avec notre jeunesse, on va aller au Mexique, est-ce que tu veux venir avec nous ?» Donc moi, honnêtement, je n'ai pas réfléchi. Moi, j'ai dit « Oui, je veux des vacances, donc oui, je veux aller au Mexique. » Gloire à Dieu si c'est un voyage de mission, mais moi, je veux juste des vacances et je veux aller au Mexique. Et, euh, Et donc, je m'embarque dans ce voyage avec eux. Et ce voyage-là, en fait, c'était dans une ville qui s'appelle Reynosa, qui est à la frontière du Mexique et des États-Unis. Donc, il y a un énorme trafic de drogue qui se fait dans cette ville. Il y a aussi beaucoup d'immigration illégale. Donc, c'est une ville dans laquelle il est dangereux d'habiter, même aujourd'hui, en fait. Mais dans cette ville, il y avait une petite église qui vraiment rayonnait, qui vraiment démontrait l'amour de Dieu aux gens. On a pu faire des camps avec les enfants et c'était vraiment des manières pratiques et très simples de démontrer aux gens que Dieu les aime. Et pour moi, c'est vraiment un moment où Dieu m'a montré qu'on peut vraiment être les mains et les pieds de Jésus. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui allait être fort plus tard dans ma vie, c'est qu'on peut vraiment être les mains et les pieds de Jésus. On n'est pas obligé d'être indifférent devant la souffrance des autres. Et c'est vrai que des fois, il y a des fléaux de l'humanité qui font qu'on se sent impuissant, comme par exemple, qu'est-ce que je peux faire moi devant le trafic de drogue? Qu'est-ce que je peux faire devant le trafic humain? Je suis qu'une petite personne, mais on a tous la capacité d'être les mains et les pieds de Jésus de différentes manières. Donc j'ai vécu ça et puis je suis revenue au Québec et donc mon vol a atterri un dimanche matin et le dimanche soir, ben, je suis allée à l'église. Et à l'église, il y avait un prédicateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Luc Dumont. Et donc Luc venait juste de traverser l'Everest, en fait. Il venait de monter l'Everest et il avait écrit un livre dans lequel il parlait du fait qu'on était appelé à vivre une aventure, que Dieu avait une aventure pour nous, une aventure passionnante, et qu'on était appelé à la vivre. Et moi, honnêtement, dans mon siège, j'étais comme, Seigneur, moi, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de vivre d'aventure, je suis très bien là où je suis, laisse-moi tranquille. Mais en même temps, quand Luc a fait l'appel, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, c'est vrai que j'en peux plus, mais écoute, si je t'écoute, je suis à l'écoute, dis-moi ce que tu veux me dire, je t'écoute. Et là, vous savez, quand des fois vous conduisez le soir et que vous voyez des lumières qui s'allument vraiment comme des néons, et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, j'ai vraiment vu le mot mission s'afficher dans mon esprit, mais vraiment comme un néant. Et le Seigneur me rappelait toutes les fois auparavant où il m'avait parlé de la mission, pendant les 6-7 dernières années, où il m'avait parlé de la mission et où je n'avais pas écouté, où j'avais juste ignoré ce qu'il disait, j'avais fait semblant de ne pas comprendre. Et le Seigneur, il m'a rappelé tous ces moments-là, en fait. Et donc là, j'ai eu un petit choc. Et puis après, j'ai dit, OK, Seigneur, d'accord, mais où est-ce que je vais? Et là, le Seigneur, il me dit, tu vas aller au Soudan. Là, je dis, ah non, tu rigoles, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Déjà que j'ai du mal à accepter ça, tu me dis, le Soudan, ça ne marche pas du tout. Et puis le Seigneur, il m'a rappelé, en fait, que quand j'étais petite, alors mes parents, ils ont travaillé dans des organisations internationales. Et le Seigneur, il m'a rappelé qu'une fois, quand j'étais petite, en fait, je devais avoir 6-7 ans, et j'ai vu un reportage sur le Soudan. Et j'ai dit à ma mère, quand je grandirai un jour, j'irai là-bas. Et donc, en fait, je m'étais un peu, je ne vais pas dire condamnée moi-même, mais presque, quoi. Et le Seigneur, il m'a rappelé ça. Et en fait, pour vous dire la vérité, pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai reçu beaucoup de paroles de confirmation de différentes personnes par rapport à cela. Mais en fait, il y avait une énorme anxiété dans mon cœur. Et je me souviens que je me réveillais au milieu de la nuit en larmes parce que j'étais anxieuse, parce que j'avais peur. Et le Seigneur m'a appris à remettre ses peurs dans sa main, à lire les psaumes. Si vous lisez les psaumes, les psalmistes, souvent vous lisez qu'il est vraiment dans l'anxiété, il est entouré de dangers, il a peur, il apprend à remettre ses peurs à Dieu. Et ça a vraiment été mon histoire, d'apprendre à remettre mes peurs à Dieu. Autant les peurs qui étaient pertinentes que celles qui étaient moins pertinentes, autant les peurs qui étaient ridicules, du genre « Seigneur, si je vis en Asie, qui va me faire mes cheveux ?» à des peurs beaucoup plus... Je sais, si vous n'êtes pas une femme africaine, vous ne comprenez pas, mais enfin, on se comprend. D'aller de ces peurs presque insignifiantes aux peurs plus sérieuses, du style « Seigneur, si je vais au Soudan, je vais peut-être me faire tuer, je vais peut-être atterrir en prison, je vais peut-être périr pour ma vie à cause de ça. » Et le Seigneur m'a appris à lui remettre toutes ses peurs, à les écrire et à les lui remettre et ensuite à examiner qu'est-ce qui est ridicule et qu'est-ce qui est pertinent et à apprendre pour ce qui est des peurs pertinentes à vraiment m'abandonner au Seigneur et dire « Seigneur, tu sais quoi, même si ça prend ma vie, ben voilà, ma vie t'appartient, alors t'en fais ce que tu veux. » Et je me souviens qu'une phrase qui me revenait souvent, c'est « Ma vie, c'est comme de l'eau qui est jetée à terre. Elle est déjà donnée à Dieu, je ne peux pas la reprendre. Donc, c'est à Dieu d'en faire ce qu'il veut, en fait. » Donc il y a eu ça, et donc j'ai commencé à partir de là à chercher des organisations missionnaires pour aller servir au Soudan. Et j'étais tombée sur une organisation qui semblait plutôt intéressée, qui servait surtout les musulmans, qui à l'époque s'appelait Salam. Donc qui aujourd'hui s'appelle Salam, et donc cette organisation sert particulièrement les musulmans. Donc j'avais commencé toutes les démarches pour pouvoir aller travailler avec eux au Soudan et tout ça. J'étais allée à leur conférence, etc. Et donc je suis allée à leur conférence en décembre, et ils m'ont dit, ben écoute, rentre chez toi et puis on te dira après ce qu'on va faire et tout. Donc là je fais ça, je rentre chez moi, et puis en janvier on m'appelle, on me dit, ah, finalement on va pas aller au Soudan, donc voilà, on pourra pas, les portes sont pas ouvertes pour le Soudan, la situation politique est trop dangereuse, on a décidé de ne plus envoyer d'équipe là-bas. Donc moi quelque part j'étais comme, Seigneur, tu vois, t'as parlé, j'ai obéi, fini, on laisse ça là, je passe à autre chose, merci Seigneur, au revoir, bonsoir, comme on dit au Québec. Et donc je pensais que Dieu, il allait laisser l'affaire, quoi. Et donc là, moi je passe à autre chose, je passe à ma vie normale, j'oublie complètement cette histoire du Soudan, je me dis, oh, c'était un moment, et puis voilà, c'est bon, c'est passé. Donc là, j'oublie ça, mais entre-temps, j'ai décidé que je pouvais dire à Dieu quoi faire. Et donc, j'ai dit à Dieu, écoute, Seigneur, c'est super cette idée de missionnaire-là, mais en fait, moi, j'avais une hantise, en fait, de devoir vivre de l'argent des autres. Je viens d'une famille qui est très travaillante, et dans ma famille, on nous a toujours appris que, voilà, tu travailles fort pour acquérir l'argent qu'il te faut, et tu dépends de personne, tu ne demandes jamais de l'argent à quelqu'un. Donc moi, l'histoire d'être missionnaire et de devoir dépendre des dons des gens, ça, pour moi, c'était non, pas du tout, quoi. Et donc, j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi, Seigneur, je suis ingénieure alimentaire maintenant, donc je vais trouver un travail dans une multinationale, dans un pays étranger, et donc j'irai dans ce pays-là, et puis je vais travailler, je vais recevoir un salaire normal, et les week-ends, je te servirai, comme je le fais déjà, de toute façon. Donc moi, je trouvais que mon idée était géniale, je me disais, c'est pas possible que le Seigneur refuse ça, c'est tellement, enfin... C'est tellement un bon deal, voilà, exactement. Sauf que le Seigneur, je pense qu'il n'était pas trop d'accord. Parce qu'un an plus tard, en fait, un an après que je sois allée au Mexique, en fait, le même ami qui m'avait invité au Mexique, il me dit, écoute, cette fois-ci, on va au Salvador. Est-ce que tu veux venir avec nous? Donc, pareil, je dis, ouais, je veux bien des vacances au Salvador, alors je vais au Salvador. Et donc, j'arrive au Salvador, et la première nuit, on nous a dit, écoutez, on va prier, on va écouter Dieu, on va vraiment prendre un temps pour déposer nos fardeaux aux pieds de Dieu et pour l'écouter. Et donc moi, j'arrive dans la présence de Dieu en larmes et je dis, Seigneur, je lutte pour savoir si je dois aller en Algérie ou en Argentine. S'il te plaît, éclaire-moi parce que vraiment, c'est difficile pour moi. Je lutte et là, je me réponds devant le Seigneur en larmes et tout ça. Et pour une des rares fois de ma vie, j'entends vraiment clairement le Saint-Esprit dire à mon cœur, Afia, tu sais très bien ce que je veux, mais tu ne veux pas le faire. Et là, j'ai été obligée de dire, tu sais quoi, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, je sais ce que tu veux, mais je ne veux pas le faire. Et ça a été un moment pour moi de repentance, de comprendre que oui, voilà, que j'avais cherché à faire ma volonté, mais que ce n'est pas ça la marche de Dieu, c'est chercher à faire sa volonté. Quand on marche avec le Seigneur, ce n'est pas un mariage, c'est pas on décide ensemble, c'est le patron, donc tu te soumets, point. Et je n'avais pas compris ça, en fait. Et donc voilà, il a fallu que j'apprenne à dire au Seigneur, voilà, Seigneur, tu as raison, je te donne tout, c'est toi qui décides, je te suis et je vais faire ce que tu veux. Le lendemain de ce moment-là, en fait, alors on est allé au Salvador pour aider une association qui s'appelle Castillo de Rey. Donc au Salvador, en fait, il y a un énorme problème de gangs de rue. C'est un des pays dans lesquels il y a les pires gangs de rue au monde. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que même des enfants vont être pris on va leur dire, toi, t'as 10 ans, tu vas tuer quelqu'un et tu fais partie d'un gang de rue. Et c'est le système de vie parce qu'il y a tellement de corruption et de violence. Et Castillo de Rey, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils pourvoient ils tirent ces enfants-là de la rue, littéralement. Ils leur offrent un endroit où rester, ils leur offrent une éducation, un endroit où ils peuvent grandir comme des enfants. Et le missionnaire le missionnaire auquel on parlait, en fait, il nous avait dit qu'avant de venir, on l'avait averti, on lui a dit, tu sais, si tu fais ça, il y a des gens qui vont chercher à te tuer, ta vie va être en danger, la vie de ta famille va être en danger. Mais il a dit, c'est vrai, mais quand même, si j'obéis au Seigneur, peut-être qu'une âme sera sauvée. Et il a dit, ma vie vaut la peine qu'une seule âme soit sauvée. Et pour moi, c'est, quand il a dit ça, c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher. Ça m'a vraiment touchée. C'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, en fait. C'était le motto, c'était le modèle que j'avais besoin pour ma vie. Que voilà, que si j'obéis au Seigneur, oui, ça ne va pas être évident. Peut-être qu'effectivement, je vais périr, mais peut-être qu'une âme va être sauvée. Et cette âme-là, elle vaut la peine de tous les sacrifices qui vont être faits par rapport à elle. Entre-temps, en même temps, au Salvador, j'ai rencontré un Népalais qui m'a parlé un peu des difficultés des Népalais, des chrétiens népalais. Et il m'expliquait que les chrétiens népalais devaient se cacher pour prier, ils devaient aller sur une montagne au loin pour prier, parce que si les gens les voyaient, ils étaient automatiquement arrêtés ou mis en prison. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Donc je m'étais dit, ok, si je ne vais pas au Soudan, je vais quand même essayer d'aller au Népal, ce sera mon deuxième choix. Donc, quand je suis revenue, là, j'étais vraiment en feu. Là, j'étais, OK, il faut que j'aille au Soudan, il faut que je trouve un moyen d'aller au Soudan. Et j'ai trouvé une organisation qui s'appelle Opération Mobilisation, OM, comme on appelle. Et peut-être que vous avez entendu parler d'OM parce qu'ils ont un bateau qui s'appelle le Logos Hope, qui en fait les frontières des différents pays pour apporter de l'évangélisation, de la littérature, et aussi pour apporter un soutien humanitaire. Mais OM a aussi des équipes sur différents terrains. Et à l'époque, OM avait une équipe au Soudan. Et donc, ils m'ont dit, écoute, on est intéressé, mais la situation est encore trop délicate. Donne-nous quand même le temps de réfléchir, de voir si c'est vraiment ce qui te convient ou pas. Donc, j'ai dit d'accord. Et puis, ils ont dit, ben, tu sais, entre-temps, tu peux quand même faire un voyage à court terme. Tu peux aller visiter un autre pays avec nous, voir comment on travaille sur le terrain. Et puis ensuite, on verra comment ça se passe. Et comme j'avais déjà rencontré mon ami népalais, pour moi, c'était clair, il fallait que j'aille au Népal. Donc, j'ai décidé d'aller au Népal. Et je me souviens encore une fois, même dans le vol que j'ai pris, qui était un vol de 24 heures, parce qu'il y avait plusieurs transferts, d'avoir ressenti de l'anxiété, en fait, et des peurs énormes. Et je me souviens même de m'être arrêtée dans un des aéroports de transit et d'avoir lutté avec la pensée de prendre un vol pour retourner en arrière, à tel point mon anxiété et mes peurs étaient fortes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu arriver à destination. Et donc, en fait, il fallait qu'on fasse une formation en Malaisie avant. Donc là, on est à cette formation en Malaisie. Et puis, je rencontre cet homme, en fait, qui travaille au Laos, en fait. Et donc, je m'informe comme ça pour discuter comment ça se passe au Laos. Donc il m'en parle un peu, c'est un pays au régime communiste, c'est un pays d'origine bouddhiste, etc. Il n'y a pas énormément de chrétiens, il y a à peine 1% de chrétiens et tout ça. Et il me dit entre autres que voilà, qu'il est le seul de OM à travailler là-bas avec sa famille et tout. Et là, le Seigneur, il a un sens de l'humour, c'est incroyable. Et là, le Seigneur, je décide de prier pour lui. Et là, le Seigneur, il me met une parole à cœur pour lui. Et cette parole, c'est, tu sais quoi, tu as été seul pendant toutes ces années-là à travailler pour Dieu, mais Dieu, il va commencer à t'envoyer des gens. Et vraiment, je ne pensais pas du tout à moi. Hein. Je n'imaginais même pas l'option ni la possibilité d'un jour aller au Laos. Mais là, le Seigneur, il met cette parole pour lui, de lui dire, voilà, tu as travaillé tout seul pendant tout ce temps-là, mais voilà, maintenant, le Seigneur, il va commencer à t'envoyer des gens. Mais moi, je ne pense pas du tout à moi, ce n'est même pas dans mes plans. Donc là, je continue au Népal, et donc j'arrive au Népal le 8 juillet 2018. Et le 8 juillet 2012, pardon, 2012, c'est le jour, en fait, où le Soudan s'est divisé en deux pays. Donc, avant, il y avait un Soudan, et après, il y a eu un Soudan du Nord et un Soudan du Sud. Donc là, je savais, c'est sûr qu'ils ne vont pas me laisser aller au Soudan, la situation politique va s'aggraver, c'est sûr qu'ils ne vont pas me laisser aller. Mais j'avais quand même le désir de continuer, d'aller quand même en mission. Même quand je suis revenue, j'avais encore ce désir. Alors, j'ai prié, et le Seigneur mettait à mon cœur le Laos. Et c'était vraiment un pays qui revenait dans toutes mes pensées, dans toutes mes conversations. C'était vraiment le pays qui revenait. Donc, j'ai pu ensuite écrire à l'organisation et leur dire que voilà, que je souhaitais être envoyée au Laos. Et éventuellement, les portes se sont ouvertes et j'ai pu arriver dans ce pays. Il y a eu, dans le parcours, des belles surprises. Donc, avec... on est appelé à ramasser notre propre soutien financier. Donc, ils m'ont dit, OK, tu peux venir, mais tu dois ramasser 14 000 $. OK, génial. Je fais comment? Et finalement, le Seigneur, il a guidé les choses. Et une surprise en particulier, c'est... alors, moi, vous savez, autant j'aime les chiffres en termes d'ingénierie, autant quand il s'agit de la comptabilité, c'est... Arrière de moi, Satan, je ne supporte pas les chiffres quand il s'agit de comptabilité. Donc, au Canada, comme on doit faire nos taxes à chaque année, je demande à un comptable de s'en occuper pour moi. Donc, je lui apporte tous mes documents et je lui dis, tiens, règle ça, et puis je viens récupérer après. Et donc là, je commence à recevoir des documents de la part du gouvernement et je suis comme, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprends rien. Alors, j'apporte ça à mon comptable et je lui dis, écoute, j'ai reçu tout ça du gouvernement, c'est quoi cette histoire? Et donc, il me dit, en fait, t'as reçu un chèque de 8 000 $ du gouvernement. Je suis comme, wow, surprise, quoi. Et évidemment, le Seigneur a pourvu de 10 000 autres manières, mais il a pourvu bien au-delà de ce que j'avais besoin, en fait. Je ne me rappelle plus exactement combien il a pourvu, mais il a pourvu tellement plus au-delà que voilà, j'ai eu de l'argent en trop, en fait, finalement. Et donc, j'arrive au LAS, et donc là, j'ai pu servir au LAS pendant 2 ans. Alors, pour vous expliquer un peu plus le travail dans lequel j'ai pu être impliquée au LAS, donc en fait, peut-être vous connaissez à peu près le trafic humain. Donc, enfin, j'ai pas mes notes avec moi, mais le trafic humain, en fait, c'est la vente de personnes, la vente ou le déplacement de personnes contre leur gré ou contre leur volonté. C'est soumettre une personne à une servitude sans la traiter avec justice, en fait, sans lui donner le salaire qui lui est dû. Enfin, il y a une définition qui est beaucoup plus claire que j'avais préparée, mais malheureusement, je ne peux pas la lire. Mais en gros, c'est la vente et le déplacement de personnes contre leur volonté. Donc, quelquefois, les gens vont dire la prostitution, c'est pas du trafic humain si la victime est consentante, mais en fait, cette victime est quand même soumise à la pression financière, donc elle ne le fait pas de sa propre volonté, enfin, parenthèse. Donc, il se trouve qu'en fait, alors on entend beaucoup parler du trafic humain par rapport à la TVA, mais en fait, 50% des victimes de trafic humain en TVA viennent du LAS. Alors, le LAS, c'est le pays le plus pauvre de l'Asie de l'Est, et donc, vous imaginez qu'un pays pauvre à côté d'un pays qui a plus d'opulence, évidemment, vous allez avoir des gens qui vont traverser la frontière, souvent sans papier, et c'est là qu'ils se retrouvent souvent piégés dans des situations très difficiles. Alors, l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelée, en fait, c'est à travailler pour cette organisation locale qui combat le trafic humain. Donc, en fait, cette organisation combat le trafic humain en... Ah non, faut que je vous raconte l'histoire de l'organisation parce que ça, c'est trop cool quand même. Donc, il y a à peu près 12-13 ans, en fait, il y a deux femmes qui priaient dans une église, elles étaient amies, elles priaient ensemble à l'église, et le Seigneur a commencé à leur mettre à cœur les victimes de la prostitution, à leur mettre à cœur la prostitution en général. Et vous savez, les chrétiens, c'est un peu plastique, et la culture de l'honneur, elle est vraiment très importante. Donc, même aujourd'hui, quand on parle de prostitution, c'est quelque chose qui fait honte, en fait, au gouvernement et qui est très tabou, dont on ne parle pas beaucoup, en fait. Mais ces deux femmes, elles ont vraiment eu à cœur cela et elles ont commencé à prier. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à mettre des jeunes femmes sur leur chemin. Donc, elles ont commencé à accueillir une fille, deux filles, trois filles et éventuellement à ouvrir des centres et des refuges pour ces jeunes filles. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en fait, les filles que nous recevons sont envoyées soit par quelqu'un qui les a vues dans une situation de vulnérabilité, donc soit elles étaient dans une position de trafic humain où elles étaient vendues, ou bien elles étaient dans une position dans laquelle elles auraient pu être vendues, soit parce que le parent est absent, ou bien parce qu'il y a une vulnérabilité économique, ou bien la jeune fille est dans un village et personne ne prend soin d'elle. Donc notre association qui s'appelle en fait, accueille toutes ces jeunes filles. Et donc là, nous leur donnons un foyer où elles peuvent réussir à trouver une vie stable. C'est vraiment comme une adoption, en fait, parce qu'on leur donne un foyer, on les envoie à l'école, on prend soin d'elles, on leur donne leur nourriture et tout ça. Et on prend soin de leur bien médical, évidemment, aussi. Et les jeunes filles elles ne sont pas dans l'obligation de partir. Elles peuvent rester aussi longtemps qu'elles le souhaitent, jusqu'à ce qu'elles se sentent prêtes à retourner dans leur communauté ou à sortir et à être indépendantes. À côté, en fait, nous leur donnons aussi des formations pour les jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous leur proposons des formations afin qu'elles puissent avoir un travail, afin qu'elles puissent se débrouiller dans la vie, en fait. Et donc, moi, j'ai été appelée à servir au sein de cette association, en fait, par rapport à la lutte contre le trafic humain. Et je sais pas combien de temps il me reste, pardon. Est-ce que quelqu'un peut m'avertir si je déborde? Ok, j'ai oublié de mettre le chrono. Ok, tu me diras si je, voilà, si je m'approche de la fin. Et donc, en fait, pour moi, ça a été... vous savez, on entend beaucoup de chiffres par rapport au trafic humain. Par exemple, aujourd'hui, on entend le chiffre que 40,3 millions de personnes sont des victimes du trafic humain. Et c'est, quand on entend ça comme ça, ça paraît comme des chiffres. Mais après, quand on se retrouve sur le terrain, on voit des vies. On voit qu'en fait, 40,3 millions de personnes, c'est une personne, une vie, une communauté, 40,3 millions de fois. Et c'est quelque chose qui peut être très... on peut se sentir dévasté, en fait, par le mal qui est autour de nous. Mais le Seigneur, il nous appelle à prier. Et j'aime beaucoup dans l'Évangile, quand Jésus il parle de l'Église et il dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles ». Et c'est parce que c'est l'Église qui attaque le monde. Souvent, moi, avant, en fait, quand je lisais cette image, j'avais tendance à penser « Ah, en fait, voilà, il y a le mal autour de nous et l'Église, elle doit se protéger, elle doit protéger les croyants, elle doit protéger la semence de Christ. » Mais en fait, non, c'est l'Église qui attaque le mal. C'est comme quand vous marchez tard le soir et vous allumez une lampe de poche. C'est la lumière qui prévaut sur le reste, c'est le contraire. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour réaliser cela, que voilà, qu'en tant qu'Église, nous avons le pouvoir et le devoir de nous tenir debout contre le mal. Par exemple, par rapport au trafic humain, beaucoup de gens se disent « Ah, mais c'est une réalité, on ne peut rien faire. » Mais si, on peut prier, on peut témoigner de la gentillesse. On peut même légalement avoir des recours afin d'améliorer le sort des victimes de trafic humain. Nous pouvons tous faire quelque chose, en fait. Mais bon, je reviens à mon histoire pour continuer mon parcours un peu. Et donc, face à toutes ces difficultés, C'est un pays bouddhiste, c'est un pays communiste, c'est un pays dans lequel il est interdit d'être missionnaire, c'est un pays dans lequel les télécommunications sont surveillées. Donc voilà, disons que les missionnaires ne sont pas accueillis, il y a énormément d'adversité, ne serait-ce que pour prêcher la parole de Dieu. Et devant tout ça, en fait, j'ai reconnu à quel point j'étais incapable. J'ai reconnu à quel point j'étais incapable de mes propres forces de vivre l'appel que Dieu il a pour moi. Vous savez, souvent on pense que les missionnaires, ce sont des gens qui sont zélés, qui sont remplis de Seigneur, qui ont la fougue et tout ça. Et puis moi, je peux vous dire que la fougue, ça n'a pas été forcément mon repas de tous les jours. Des fois, ça a été, je me réveille et je n'ai pas envie de me lever parce que c'est trop difficile. Et la seule chose qui me vient en tête, c'est « Seigneur, je veux rentrer chez moi parce que c'est trop difficile, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver. » Mais ça a été à chaque fois de venir devant le Seigneur et de lui apporter mes craintes, de lui apporter tous mes manquements, de pouvoir dire « Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas capable, il n'y a que toi qui peux le faire au travers de moi. » Des fois même, ça a été de reconnaître que, vous savez, souvent, on est appelé à aider les gens, mais les gens sont humains comme nous. Les gens, ils sont pécheurs comme nous. Et quelquefois, ce sont les gens qu'on vient pour servir qui nous blessent le plus. Et quelquefois, c'est facile de cultiver l'amertume, de cultiver la colère et de tout simplement partir. Et bien des fois, j'ai dû venir au Seigneur et dire au Seigneur, voilà, Seigneur, tu m'appelais à ce peuple, mais je ne les aime plus, en fait. Moi, je n'ai plus envie de rester ici, en fait. Et ça a été de constamment voir le Seigneur renouveler mon amour, renouveler ma capacité à pardonner et renouveler ma passion et mon appel pour ce peuple, en fait. Et je ne peux pas honnêtement dire que si je suis... Là, ça fait 4 ans et demi que je sers au Seigneur. Je ne peux pas honnêtement dire que je ne me suis jamais posé la question « Ah, peut-être que je devrais retourner parce que c'est trop difficile. » Je me suis posé cette question-là presque tous les jours. Il y a eu tellement de jours où j'ai dit « Mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai tout sacrifié pour venir servir ce peuple ?» Et pourtant, Dieu, jour après jour, il me rappelle « Afiwa, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est moi qui te donne la force d'œuvrer pour moi. C'est moi qui t'ai appelé. Alors, tu vas rester dans cet appel, pas parce que toi, tu es capable, mais parce que moi, je suis capable de te donner ce qu'il faut pour l'accomplir. » Et ça a été de dire, bien des fois, d'être honnête envers le Seigneur et de le voir remplir mon cœur d'amour encore et encore pour ce peuple et pour cette nation. Et Vous savez, quand j'avais commencé à servir Dieu au départ, je pensais que, ouais, que si je servais Dieu, il me donnerait tous les délices de mon cœur. C'était un peu comme, vous savez, la petite souris là, quand vous lui donnez un peu de fromage et que vous lui dites, tiens, viens manger le fromage, et qu'après, elle se retrouve attrapée. Et moi, je me disais, ben, si je sers le Seigneur, ben, le ciel sera bleu, j'entendrai les oiseaux chanter, tout sera merveilleux, ma vie sera parfaite. Non, c'est pas vraiment ça, non. Non, pas encore. C'est beaucoup de porter la semence avec l'arme. C'est rencontrer le mal comme tu l'avais jamais vu avant et de te sentir totalement désemparé et de comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de crier à Dieu. En fait, c'est même pas une option. C'est de choisir de pardonner encore et encore. C'est choisir de recommencer à travailler, de retourner au travail alors que tu as l'impression que tu as échoué, que tu n'arrêtes pas d'échouer, mais de recommencer encore. Et de t'attendre à ce que la joie du Seigneur te remplisse, même si tu ne la ressens pas. C'est continuer à être fidèle, même quand tu te dis que tu es en train de perdre ton temps, que tu devrais être mieux ailleurs. C'est résister aux tentations. Quand, par exemple, je pense par exemple au jour où j'en avais vraiment marre et je voulais vraiment rentrer chez moi et j'attendais vraiment juste l'excuse pour rentrer. Et là je rencontre en fait quelqu'un qui me propose le job de mes rêves, mais dans un pays de rêves avec tout ce qu'il faut. Et là, je ne vais pas vous mentir, j'ai été tentée. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas tentée, que je n'ai pas voulu. J'ai été tentée. Mais il y avait quelque chose en moi où le Seigneur disait, tu sais que ce n'est pas de moi ça. Tu sais que tu pourrais accepter cette offre, mais que si tu l'acceptes, tu sais que ça ne vient pas de moi. Et je savais que le Seigneur, parce que le Seigneur m'aime, je savais que même si je faisais des mauvais choix, il me bénirait. Mais il y a un plaisir dans le fait de savoir qu'on est exactement là où Dieu nous veut. Et même si on est dans des circonstances difficiles, le fait d'avoir cette paix-là où tu sais que tu es vraiment là où Dieu te veut, même si c'est pénible, même si c'est compliqué, même si tu as le gouvernement qui te met des embûches tout le temps, même si tu as des fois les gens que tu es venu pour servir qui ne te démontrent pas d'amour, même s'il y a toutes ces difficultés. Mais quand tu sais que tu es exactement là où Dieu te veut, il y a une paix. Et je vous dis, les amis, il n'y a rien qui surpasse cette paix. Il n'y a rien qui la surpasse. Et cette paix-là, elle vaut tout le prix, en fait. Et en fait, je pense aussi que quand on marche dans l'appel, souvent, en fait, l'ennemi cherche à nous faire croire que ce qu'on fait ne sert à rien. Et ça a été un combat dans ma vie et dans la vie aussi de mes autres amis missionnaires que j'ai remarqués et même de tous ceux qui servent le Seigneur, je pense. Seigneur, le diable, il arrive à un moment donné à te faire croire que, tu sais quoi, tu as tout laissé, mais pourquoi ? À quoi ça sert ton travail ? À quoi ça sert le fait que tu es fidèle à chaque jour ? Ça ne sert à rien, regarde, tu ne vois même pas les fruits. Et souvent, on tombe dans le piège et on se laisse décourager. Mais en fait, non, parce que, quand on plante une semence, on ne voit pas la terre bouger tout de suite. Et bien, il faut arroser, il faut pelleter, il faut être patient. Et puis là, un jour, oh, tu as un arbre qui sort et tu te dis, mais d'où ça venait, ça ? Mais ça vient avec des années de patience, des années de persévérance. Ça vient avec le fait de refuser de laisser tomber, en fait. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu parce que, comme je disais, je sais que si je suis en train de marcher dans son appel aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mes propres forces, parce que moi, j'aurais abandonné il y a longtemps, mais c'est parce que Dieu, il a persévéré avec moi. Parce que Dieu, chaque fois que je voulais abandonner, il m'a dit, il n'est pas question, tu vas rester là. Et il m'a donné sa paix et sa joie quand je ne m'y attendais plus. Il a renouvelé ma joie, il a renouvelé ma paix, renouvelé mes forces. Il m'a aussi appris à mieux me combattre. Il m'a aussi appris à mieux me connaître, à réaliser quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes vulnérabilités, qu'est-ce que je peux faire autrement pour mieux combattre. Et donc, je veux juste vous encourager, frères et sœurs, que je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre appel. Peut-être que vous marchez pleinement dans votre appel. Il y en a peut-être, vous ne savez pas encore c'est quoi votre appel, et puis vous luttez, vous marchez comme tâtonnant dans le noir. Mais le Seigneur, il dit qu'il nous guidera, qu'il nous montrera la voie à suivre. Et c'est tellement vrai. Et des fois, la voie à suivre, ben, c'est juste voir ce qui est là, sous tes pieds. Ce n'est pas voir ce qui est à 5 km. C'est juste voir ce qui est là et d'obéir là. Mais le Seigneur, il est fidèle, il accomplit. Et peut-être qu'il y en a ici, en fait, vous marchez dans l'appel et vous en avez marre. Et vous avez juste envie de tout laisser tomber. Laisse pas tomber. Continue, persévère. Tu ne sais pas ce que Dieu y réserve pour toi. Il y a un verset qui dit « Celui qui porte sa semence avec larmes revient avec des chants d'allégresse. » Mais ça, c'est porter la semence, c'est accepter de souffrir un peu. Et le ciel, il nous est donné par la grâce gratuitement, mais avant d'y arriver, bah, faut bien vivre un peu, faut bien souffrir un peu, faut travailler un tout petit peu. Et moi, je veux juste vous encourager à continuer à croire dans les rêves et les plans que le Seigneur il a pour vous. Et la paix, c'est pas facile. Et Paul, il va dire à Timothée même, il écrit cette lettre dans 2 Timothée où il dit à Timothée, garde le dépôt qui a été mis en toi. Et dans cette lettre, Paul, il ouvre vraiment son cœur à Timothée et il dit, voilà, tu vois, il y a tel et tel qui m'ont trahi, il y a tel et tel qui m'ont abandonné. Tu vois comment j'ai suivi le Seigneur et comment j'ai été persécutée, comment j'ai été battue, toutes les souffrances que j'ai vécues. C'est vrai, c'est pas facile, mais garde ce dépôt. Puis peut-être il y en a ici, garde le dépôt que Dieu y a mis en toi. C'est pas facile, c'est pas évident, t'as envie de tout lâcher, garde-le. Parce que tu sais quoi, quand tu vas le garder là, il y a quelqu'un qui va venir au Seigneur à cause de toi. Il y a des vies qui vont être changées à cause de toi. Vous savez, je termine avec ça. Dans le cadre de mon travail pour l'organisation, justement, je devais mettre sur pied une formation pour aider les jeunes filles à... Une formation de base pour qu'elles puissent travailler dans les restaurants après. Donc, en fait, les jeunes filles qui viennent, elles viennent souvent de villages, d'endroits reculés, en fait, et elles n'ont pas accès à une éducation. Enfin, déjà, le système d'éducation n'est pas génial, mais elles n'ont pas accès à l'éducation qu'il faut. Donc, en fait, on leur donne cette formation pour leur donner une plateforme, une chance de mieux réussir, en fait, et de se trouver du travail dans la restauration. Et donc, j'ai fait cette formation, j'ai monté le programme, on a enseigné et tout ça. Et il y avait une de mes élèves, je ne vais pas vous mentir, elle m'énervait. Si je pouvais la taper la petite des fois, les choses qu'elle disait. Mais par la grâce de Dieu, chaque fois je venais devant le Seigneur, je disais, Seigneur, elle me tape sur le système. Et Seigneur, il renouvelait ma joie pour elle. Et je revenais le lendemain matin et je trouvais que c'était la plus mignonne des personnes. Alors que la veille, si j'aurais pu lui, je l'aurais fait. Mais Seigneur, chaque jour, il renouvelait mon amour pour elle. Et elle a gradué. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oh, merci d'avoir fait ça pour moi. J'étais tellement contente d'apprendre à te connaître. Et elle me prenait dans ses bras comme si on était les meilleures amies du monde, alors qu'en fait, elle m'a fait souffrir, je vous dis. Mais vous savez quoi? Le résultat, c'est qu'elle a connu l'amour de Dieu. Et moi, je n'avais pas l'impression de donner l'amour de Dieu. Mais c'était chaque jour de venir devant Dieu et d'être honnête devant Dieu et dire, Dieu, je n'arrive pas à l'aimer, il faut que tu m'aides là. Et elle a ressenti l'amour de Dieu, même si moi, je n'avais pas l'impression que je le lui donnais. Vous comprenez? Donc, voilà, je veux juste vous encourager à continuer à être fidèle avec l'appel que Dieu vous a donné.
Merci beaucoup. Alors, on entend parler de la mission, et on lance un appel. Qui veut aller en mission? Les gens, ils se lèvent d'un bond et ils ont l'impression d'aller au Club Med. Ceci dit, elle a fait une bonne chose, c'est qu'elle a accepté d'être formée avant. Parce que c'est la pire des choses, quand quelqu'un part comme cela, en général, celui qui aide finit par demander de l'aide. Et là, on aide personne, ça ne sert à rien. Quelquefois, il y a des gens qui veulent venir ici, et puis c'est style, si vraiment tu viens, je vais devoir t'aider plus que ce que tu m'aides, donc grosso modo, ça va pas, ça. Mais ceci dit, moi, je me souviens tout de suite, je sais pas, c'était quelques semaines après être, quelques semaines après être née de nouveau, j'ai répondu à un appel. C'était une journée missionnaire qui avait été organisée, et j'ai répondu à cet appel-là, quand il est dit, mais qui ici voudrait que le Seigneur mette... qui donnerait au Seigneur l'autorisation de l'amener au-delà de la France? Et je dois dire que depuis enfant, moi, les peuples qui sont différents, ça m'a toujours rendu curieux, j'ai toujours été... j'aime savoir comment vivent les gens. Moi, aller en vacances et puis aller au Club Med en vacances, c'est juste pas mon truc. J'ai besoin de voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, et etc. Surtout comment ils mangent. Non, pas que. Mais en tout cas, j'ai répondu à cet appel. Et j'ai répondu à cet appel, si bien que quand je fais quelque chose pour l'Église, je n'arrive pas à m'arrêter à vous. C'est-à-dire que tout le temps, je me dis, si c'est bon pour nous, c'est bon pour d'autres. Et notamment en ce qui concerne la francophonie, puisque c'est là que va mon cœur. Bien que je parle couramment anglais, mais moi, je me pose toujours des questions. Comment va la francophonie? Qu'est-ce que je peux faire pour les francophones? Si c'est déjà traduit en français, pourquoi ça ne servirait pas à d'autres? Hein? Et alors, il y a des gens qui vont sur le champ missionnaire parce que ils vont avoir une position de leadership. C'est-à-dire, ils vont être un pasteur, ils vont être un apôtre, ils vont être un enseignant là-bas. Mais il y en a d'autres qui vont dans le champ missionnaire grâce à leur profession. Et si vous vous rappelez la série que j'ai enseignée sur les sept montagnes, eh bien, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont accepter d'être envoyés peut-être pour monter une télévision quelque part. Peut-être ça va être pour... Bon, bien sûr, dans le domaine médical, on en a beaucoup, beaucoup de gens. Et ce n'est pas parce qu'ils vont prêcher l'Évangile, mais ils vont amener, je dirais, leur chrétienté à travers leur profession. Alors, c'est bien si c'est dans un pays démocratique, mais ce n'est pas à prendre à la légère quand on dit « Seigneur, moi j'accepte que tu m'envoies où tu veux ». Parce que ça peut être démontrer la chrétienté dans un pays musulman, dans un pays communiste. Très souvent, les gens ont une idée assez hollywoodienne de la mission, c'est-à-dire « je vais en mission et je vais manger, je vais avoir des supermarchés à la française ». Hein? Et puis je vais conduire des voitures du standing français, et puis je vais avoir des tas de gens qui vont m'aimer. Et puis là on entend du style, bah, tu sais quoi, c'est pas qu'ils m'aiment pas, mais c'est moi qui les aime pas. Ceci dit, je vais vous dire, les difficultés dont parle je vais vous dire que ma sœur et moi, nous les avons rencontrées, pourtant nous sommes dans notre pays. Avec des gens que nous aimons, là. Ce n'est pas le cas, la situation est différente. Mais cette question-là de dire « mais ce que je fais ne sert à rien, il n'y a pas de fruit », le fait de ne pas avoir des portes qui s'ouvrent, des rêves qui s'accomplissent, etc., eh bien, je vais vous dire, il faut accepter de passer par ce genre de choses. Mais à un moment, il y a la percée. À un moment, et la percée, on ne peut pas la fabriquer. Il faut qu'elle soit donnée. Mais à un moment, il y a la percée. À un moment. Et quand il y a la percée, eh bien, on n'irait nulle part ailleurs. Vous savez, l'équipe pastorale le sait, on m'a offert des postes aux États-Unis pour enseigner, à ma sœur aussi. Il suffit qu'on passe un coup de fil, et je vous assure qu'on prêche dans des grands ministères. Ça ne m'intéresse pas. Une fois que le cœur est quelque part, le reste, c'est rien. Ça n'est absolument plus rien. L'or est ici. L'or n'est pas ailleurs. L'or de Dieu n'est pas quelque chose qui a une valeur. Ceci dit, ce matin, je suis venue avec cela. On est allé dans ce sens-là, il y a eu le chant qu'on a chanté tout à l'heure, les offrandes vont dans ce sens-là, le message que l'on a entendu, tout ramène à l'appel que je vais lancer maintenant. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui disent, tu sais, moi, je voudrais aller en mission, étant entendu qu'on ne vous dit pas que vous allez au Club Med. Seigneur, fais de moi. Seigneur, comme disait tout à l'heure, ma vie, je te l'ai donnée, c'est de l'eau qui est répandue, je ne peux plus la récupérer. Et puis, ce n'est pas que ça, parce que c'est la fête des mères. Est-ce que les mamans seraient à même de dire « Seigneur, mon enfant, je le libère pour toi. » Parce que quelquefois, ce sont les parents qui font tout pour que l'enfant n'aille pas là où il souhaite aller. Mais en tout cas, c'est un moment qui est sérieux, hein. Le Seigneur peut en nous envoyer pour des raisons professionnelles dans un autre pays, de manière à libérer le message chrétien à travers des actes. J'ai rencontré des gens qui sont allés dans des pays musulmans, qui sont allés j'ai des amis qui sont dans tellement de pays. Il y en a qui s'amusent beaucoup, d'autres qui s'amusent moins. Et quelquefois, ça veut dire retourner dans son pays, comme c'était pour ma sœur et pour moi. C'était retourne dans ton pays. Donc la question est, y aurait-il des gens qui sont au milieu de nous et qui disent, tu sais, peu importe, raison professionnelle ou ministère. Mais Seigneur, j'aimerais, moi je suis, j'ai les nations à cœur, ou peut-être, bon, j'ai peut-être une idée, peut-être que je n'en ai pas, mais en tout cas, je voudrais y aller. Donc, dans ces cas-là, alors, est-ce que ça veut dire que le Seigneur va vous envoyer ? Ben, il y a plusieurs manières d'y aller. Moi, je suis allée en mission, mais la manière pour moi d'y aller la plus efficace, hormis quand il m'est arrivé d'y aller, c'est que ma voix aille là-bas. En ce qui me concerne. Mais si je n'étais préoccupée que par l'église à Nice, eh bien, le Seigneur ne me donnerait pas les moyens. Et même si j'en attends d'autres, il ne me donnerait pas les moyens d'aller dans ces pays à travers l'enseignement. Est-ce que le Seigneur va vous envoyer ? Peut-être. Est-ce qu'il va vous envoyer demain ? Il y a de grandes chances que non. Mais de toute façon, avec cette histoire de mission, il doit y avoir une disponibilité de cœur. Une disponibilité de cœur. Alors, est-ce que quelquefois, il est trop tard pour y aller ? Bien sûr qu'il n'est pas trop tard pour y aller. Mais je dirais que la pire des choses, c'est de dire, Seigneur, laisse-moi d'abord finir ma carrière professionnelle. On donne Seigneur, ok, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. Dieu est Dieu. Comme disait, ce n'est pas un mariage. On n'a pas décidé ensemble. Alors, j'espère que c'est enregistré, hein, pour nos amis qui sont sur Internet. Eh bien, les gens qui sont sur Internet peuvent répondre à cet appel. On peut sentir le sérieux, là, qu'il y a. Bien sûr que c'est sérieux. Entrer dans le ministère, c'est sérieux. Répondre à l'appel de Dieu, c'est sérieux. Bien. Alors, ceux qui disent, tu sais, moi, je veux bien répondre à son appel pour la mission. Si vous voulez bien vous lever. Et puis, j'aimerais également que les mamans qui disent, eh bien, moi, je vais juste m'engager devant le Seigneur à libérer mes enfants, même si c'était dans le champ missionnaire. C'est beaucoup disent, oh, je voudrais voir mes enfants grandir. Bon, ça, c'est une chose. Mes petits-enfants grandir. Mais il y a tout ce genre de choses-là avec la mission. Il y a une réalité. Néanmoins, il y a cette joie et cette paix qui est incomparable quand on est dans la volonté de Dieu. En revanche, quand on lutte contre la volonté de Dieu, même quand on conduit une Porsche, et qu'on rentre dans une maison de 10 pièces, qu'on a une réputation en ville, qu'on est entouré d'amis. Il n'y a rien de pire que cette tristesse qui est au fond du cœur, ce sentiment de passer à côté de la plaque. Alors, est-ce qu'il y a des mamans qui disent « Moi, je vais libérer mes enfants, même si c'était pour la mission. » Levez-vous également. Et vous dites « Mais et si je ne me lève pas ?» Vous savez quoi ? Ce qui compte, c'est d'être honnête vis-à-vis de Dieu. C'est ça qui compte. Bien, il y a toujours quelque chose qui se passe quand on fait un pas en avant. Donc, je vais vous demander de venir ici. Et on va faire une prière de consécration. Approchez-vous tous ici. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que Seigneur, nous tenons devant toi. Et nous sommes conscients, mon Dieu, du pas que nous faisons en avant. Vous voulez bien répéter cette prière après moi ? Père, dans le nom de Jésus, je me présente à toi tel que je suis. Et à nouveau, je me donne à toi. Fais de moi ce que bon te semble. Envoie mon enfant où tu veux. Merci pour la grâce en toutes circonstances. Merci pour les connexions que tu nous donnes. Pour les provisions abondantes. Afin que nous soyons une bénédiction à notre génération. Nous voulons voir notre vie à la lumière de l'éternité. En sachant que les récompenses arriveront au moment voulu. Et même si certaines n'arrivaient qu'au ciel, nous continuerons fermement dans ta volonté. Je te donne toutes les circonstances de ma vie. Utilise-les afin que ta volonté m'apparaisse clairement. Je dispose mon cœur à t'entendre. Au nom de Jésus. Je te fais confiance avec ma vie. Permets-moi de porter du fruit pour toi, afin que quand je me présente devant toi, j'entende « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Ta voix m'est douce, Seigneur, et ta paix est un rempart pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez retourner à votre place. Gloire à Dieu. Et là, je viens de perdre la moitié de l'église. Non, c'est vrai. Comme dit Pasteur Marc, c'est une semence. Une semence, non, c'est pas grave. C'est pas ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à saluer notre ami qui a bien voulu apporter son parcours, partager son parcours avec nous. Et puis, nous allons terminer en souhaitant un anniversaire. Alors, évidemment que chaque anniversaire est important. Mais il y a une personne qui sert l'Église avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dévotion et de fidélité, qui me sert tout particulièrement, et c'est Christelle.
Alors, joyeux anniversaire. Alors, il se trouve, on peut faire standing ovation, c'est vrai. Alors, non seulement Christelle sert sa famille, et Dieu sait si nous savons combien elle aime son mari, ses deux garçons. Mais en même temps, elle nous aime, nous, Église La Bonne Nouvelle, et elle nous sert avec... Vous ne voyez pas, vous, hein, mais il y a des moments où il faut savoir dire merci à quelqu'un. Et elle me sert, moi, personnellement, puisque c'est mon assistante. Et je dois dire que grâce à elle, quand il y a un rendez-vous, eh bien... J'y suis. Grâce à elle, l'exercice du ministère est non seulement plus facile, mais surtout, je peux mieux le faire. Donc, il y a un chant que l'on connaît à l'église La Bonne Nouvelle, et Pascal, tu vas nous aider. Ce n'est pas simplement « Joyeux anniversaire » qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous connaissez ce chant de l'église La Bonne Nouvelle ? Alors, on va le lui chanter. Qui connaît le refrain, ben, ceux qui connaissent la suite vont...
Bénédiction sur le reste de ta vie. Bénédiction, car ta vie est en lui. Aujourd'hui, célébrons ton anniversaire, le jour où le Seigneur t'a placé sur la terre, avec déjà formé des plans pour te bénir, que nous voulons parler sur ton avenir. Bénédiction sur le reste de ta vie. Bénédiction, car ta vie est en lui.
Je crois que Christelle va se rappeler du jour de son anniversaire. C'était hier, mais... Hein, voilà, c'était sur la mission. Eh ben.
Je vais m'en rappeler, oui. Merci beaucoup, je suis vraiment touchée. Vraiment, je vous sers avec plaisir. Vraiment, ouais. Mais avec plaisir surtout. Mais je suis particulièrement émue parce que c'est la prière qu'on a fait juste avant a bouleversé mon cœur de maman. Et donc voilà, donc ces remerciements qui viennent juste après, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder mes yeux. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.
Bénédiction. Alors, il se trouve que nous aimons célébrer. Vous savez, n'importe quelle occasion pour célébrer la bonne nouvelle, c'est bon. Hein. Je veux dire, si un jour quelqu'un dit on célèbre parce qu'il y a du soleil à Nice, on le fait. Alors, nous avons un petit cadeau pour chaque maman. Donc, voilà, les enfants vont remettre cela à chaque maman. Donc, chaque maman peut... Allez-y, allez donner à chaque maman.